radioville.ch.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Les burn-out, c'est dû à l'organisation personnelle, de comment est-ce qu'on gère nos affaires.
Ça reste la faute de l'employeur.
L'environnement du travail n'aide pas, suivant les entreprises, au bien-être mental des gens.
Je pense que c'est des horaires un peu compliqués à gérer. Ouais, c'est ça.
Et si vraiment vous voyez que votre boulot ne vous fait pas du bien, partez.
Bonjour Jean-Marc Richard.
Bonjour Valérie, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour évoquer le burn-out avec cette question un peu provocatrice, un tant soit peu, dirais-je. Le burn-out, la faute à qui ? Eh bien, dans les premiers messages que nous avons reçus, et beaucoup de messages parce que ça passionne, évidemment, beaucoup ont vécu le burn-out, ont témoigné, vous en entendrez quelques-uns de témoignages tout à l'heure. Un, c'est la faute aux employeurs, aux entreprises, aux patrons. Deux, à la société. Trois, à soi-même. Quatre, à personne. Voilà, c'est ce qui ressort un peu de ce que nous avons reçu ou entendu et que nous allons partager évidemment avec vous tout au long de cette émission. Donc n'hésitez pas à donner votre avis au 079 844 0077.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Augier.
Burnout, la faute à qui ? C'est la question du jour et c'est la question que l'on vous pose tout de suite, Sophie Vassutine.
Alors le burnout, cet anglicisme apparu dans les années 70 signifie littéralement se consumer. En français, on parle d'épuisement professionnel. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit d'un syndrome lié à un stress chronique au travail et pas une maladie.
Et l'épuisement professionnel ne faiblit pas en Suisse.
Au contraire, la santé mentale des travailleurs se dégrade. Aujourd'hui, près d'un employé sur 5 est concerné. Selon Travail Suisse, plus de 42% des personnes interrogées se disent souvent ou très souvent stressées. 17% de la population affirme avoir déjà subi un burn-out et une personne sur 4 estime être à risque. Alors voilà, des chiffres qui donnent vraiment, vraiment le tournis.
Le stress finit aussi par laisser des traces bien concrètes.
Perte de concentration, trou de mémoire, fatigue persistante. Le burn-out s'est un peu continué à fonctionner sous un amas de post-it et de notifications. À ne pas confondre avec le burn-out, où l'on meurt lentement d'ennui faute de charge de travail, ni avec le brown-out, ce manque de sens au travail coincé dans ces fameux bullshit jobs dont je n'ai pas besoin de vous donner la définition.
Et alors, quels sont les signaux d'alerte ?
Le burn-out ne frappe pas au hasard. Il touche souvent ceux qui aiment leur métier, qui s'y investissent sans compter. Et quand il se glisse jusque dans la chambre à coucher, à coup de rumination mentale, c'est déjà un signal. Pour Catherine Vazet, psychologue lausannoise spécialisée dans la santé au travail, le burn-out n'est pas nouveau, mais ses causes, elles, ont changé. Elle était l'invitée de Julie Marty dans la matinale ce début d'année.
On est de plus en plus sédentaire, et au travail et dans la vie privée. On n'a pas de porte de sortie pour le stress. Le stress va sortir quand on est en action physique. Deuxième chose, c'est les nouvelles technologies qui ont déjà passablement changé notre façon de travailler, le rythme de travail, la charge aussi, et la possibilité d'avoir le bureau dans la poche qui change énormément par rapport à préserver notre vie privée. C'est plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 50 ans en arrière.
Pour répondre à cette urgence, Catherine Vazel lance le No Burnout Lab, un programme de prévention qui s'étendra sur toute l'année. Un laboratoire vivant, soutenu par l'Université de Lausanne, avec chaque semaine un nouveau thème et des outils concrets, jeux de cartes, exercices, pistes pour apprendre à écouter ses besoins. Le tout accessible en ligne à tout moment. Important pour les travailleurs vaudois déjà débordés. Alors au fond, le burnout, symptôme collectif d'un monde qui applaudit ceux qui tiennent jusqu'à ce qu'ils craquent. À vous d'abord d'en parler.
Merci Sophie Vassutine.
C'est une question qu'on peut effectivement se poser. Quand on pose cette question, le burn-out, la faute à qui ? On a beaucoup de réponses à propos des employeurs. Tiens, par exemple, Martine qui vient d'envoyer le premier message au 079 844 0077 qui dit « Lorsqu'il y a surcharge de tâches ainsi que le dénigrement des supérieurs ». Je vous propose d'écouter ce qu'en disent celles et ceux que nous avons croisés toujours avec le même bonheur dans la rue.
Je dirais que c'est beaucoup à cause du travail, les conditions de travail. Si on aurait de meilleures conditions de travail, qu'on penserait un peu plus à l'humain, éventuellement, il y aurait moins de burn-out. Ou même à l'école aussi, je sais que parfois ça peut être compliqué, que ça peut créer des burn-out.
Patron d'entreprise. Je pense que c'est des horaires un peu compliqués à gérer. Ouais, c'est ça.
Ou alors les burn-out, je pense que c'est la faute de manière générale à une société où tout va un peu trop vite. Et je pense qu'on oublie un peu de prendre le temps de simplement vivre les choses et puis les vivre aussi à son rythme. Et je pense que vraiment c'est une conséquence un peu de la société et puis de la manière dans laquelle on la vit. Et puis c'est ce qui entraîne ces genres de situations.
Et notre invité, Valérie, s'appelle Patrick Sumi. Bonjour. Il est l'auteur de Sur le fil, paru aux éditions Slatkin. Bonjour Patrick, merci bonjour, d'être là. Dans quelques instants, on va se poser la question, si vous vous êtes posé la question, c'est la faute à qui? Vous étiez cadre pendant de nombreuses années chez Nestlé, et puis un jour vous avez dû licencier de nombreux collaborateurs et amis. On a senti, en tout cas vous le dites dans votre livre, les prémices du burn-out, et vous avez quitté votre poste de travail, et vous avez décidé de relier Lutry au Cap Nord sur 5200 kilomètres, et vous en avez fait un livre. C'était prémices de burn-out, c'est juste?
Tout à fait. Quand j'ai quitté, c'était parce que je sentais au bord du gouffre. J'avais les prémices, j'avais tous les indicateurs en rouge, et puis le fait de quitter, c'était me sauvegarder. Et j'étais très très fatigué mentalement. Je suis parti à vélo, ça m'a apaisé, j'ai eu le temps de me reposer mentalement. Je suis rentré fatigué physiquement, mais mentalement, ça m'a fait un grand bien de passer 3 mois avec moi-même pour un petit peu faire le point sur ce que je voulais faire à l'avenir.
On va se poser tout plein de questions avec vous, mais on vous donne la parole, bien sûr, au 079 844 0077. N'hésitez pas.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Burnout, à qui la faute? C'est le thème de Vous d'abord, jusqu'à 13h.
Valérie, je suis allée dans la rue pour proposer aux gens de nous dire s'ils pensent que quelqu'un porte la faute des burn-out. Et là, j'ai rencontré une jeune femme qui vit le burn-out et qui a accepté d'en parler.
Oh, il vient de trop justement, il y a trop de travail, trop de stimulation, trop d'insécurité.
Votre femme ne s'appelle pas Nicole, donc.
Non, elle s'appelle Témoignage Rue, c'est le 3.
Dans le burn-out, moi j'aurais envie de juste dire c'était la faute de tout le monde, parce qu'en fait on s'en sort pas, on est malade, on n'arrive pas à s'en sortir, à avoir les idées claires. Maintenant avec le recul, avec 1 an et demi après, même si c'est difficile, je m'aperçois que il y a eu plusieurs comportements qui ont dévié, qui a amené à cette situation-là.
Alors vous, comment vous en êtes sorti?
J'ai eu la chance que mon médecin m'a bien écouté et qu'il m'a fait arrêter le travail d'urgence parce que moi je voulais pas, parce que je voulais y arriver et en fait on n'y arrive plus. Et il faut accepter de ne plus y arriver, ce qui est horrible, c'est très difficile. Une fois qu'on y est dedans, on est en burn-out, on ne l'entend pas et en fait on est en train de s'auto-détruire parce que c'est plus facile. Il faut écouter les médecins, il faut accepter de s'arrêter, c'est long. Moi on m'a arrêté jusqu'à 3 mois. Et c'est nécessaire. Et c'est dur. Au bout d'd'1 an, 1 an et demi, je vous dis, là maintenant je vais mieux. Il faut prendre le temps de se soigner. Et si vraiment vous voyez que votre boulot ne vous fait pas du bien, partez.
Je vous vois réagir, hein. C'est clair. C'est ce que vous avez vécu aussi. À un moment donné, on veut y arriver. On veut montrer qu'on est à la hauteur. On veut atteindre cette barre qui finalement s'avère inatteignable en quelque sorte.
C'est le moteur du burn-out, c'est l'ego. En fait, c'est l'ego, c'est cette envie de tenir, de durer et de dire que je ne vais pas lâcher. Et le témoignage est extraordinaire parce qu'elle dit qu'il faut accepter qu'on est malade. Et je pense que c'est le premier pas, c'est d'accepter qu'on est malade, d'aller voir le médecin, d'aller voir quelqu'un, de pouvoir en parler. Je pense que c'est exactement ce qui m'a sauvé, c'est cette capacité à un moment donné de lever la main. Et quand on lève la main pour dire que ça ne va plus, les choses changent. Parce que les gens le savent. Si les gens ne savent pas que vous êtes malade, ils ne font rien. Ça veut dire que dans le rouleau compresseur de l'entreprise, de la multinationale, les exigences sont telles que tant que vous ne levez pas la main, les gens continuent. Et moi, les choses ont changé dès lors que j'ai levé la main pour dire, écoutez, j'en peux plus. Les choses se sont mises en place. Donc j'ai été bien suivi, bien accompagné. Il faut avoir cette capacité de lever la main tôt ou tard.
Vous avez levé la main et puis vous avez pédalé aussi. Ça, on en parlera tout à l'heure. Quand même 5200 kilomètres entre Lutry et le Cap Nord. Cette fois, on peut prendre Nicole, si vous êtes d'accord, Valérie.
Oh, il vient de trop justement. Il y a trop de travail, trop de stimulation, trop d'insécurité, trop de manque de respect, trop de violence. Il y a trop. J'ai pas vécu vraiment le burn-out, mais j'en étais tout près, on va dire. On sait plus vers qui se retourner. Et vraiment, quand on nous dit cette petite phrase que j'ai lue aussi dans les témoignages et que j'ai entendue, c'est vraiment ressaisis-toi et arrête de te plaindre. Maintenant, vas-y, avance et puis c'est tout. Tais-toi, t'en peux plus, c'est pas grave. Pour moi, c'est la faute à la société qu'on vit aujourd'hui, en gros.
Oh, ça va passer, bouge-toi, hein. Arrête de te plaindre, c'est ça. Vous avez un peu entendu ça ou vous n'avez pas laissé le temps aux gens de vous le dire?
Non, c'est des choses qu'on se dit à soi-même.
Ouais.
Mais arrête de te plaindre, t'as tout pour bien faire, t'as un super job, t'es bien entouré, et tu gagnes bien ta vie. Tout ça sont des freins qu'on se donne soi. Bien sûr, c'est le reflet des autres aussi, parce que notre ego veut faire en sorte qu'on tienne la baraque. Et puis cette fierté de vouloir passer, on se dit, ben ouais, on va passer cette phase, ça ira mieux. Donc oui, ça c'est difficile.
Je ne sais pas, Valérie, si vous allez faire une fois un périple comme celui-ci de 5200 km à vélo ou à pied. Mais en tout cas, le livre, je vous l'offre très volontiers parce qu'il explique comment on passe le cap. Et il est paru aux éditions Slatkin, sur le fil Patrick Sumy. On reparle de tout ça parce qu'on n'a encore pas eu le temps de vous poser la question qu'on pose à nos auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, CARAC 3 et LFM. À qui la faute ?
Vous d'abord. La parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Augier.
Burnout, à qui la faute, c'est le thème de vous d'abord jusqu'à 13h sur LFM et CARAC 3. Et notre invité est Patrick Sumy, accompagnateur en montagne désormais et auteur du livre Sur le fil, Lutry Cap Nord à vélo, paru aux éditions Slatkin.
Sur notre plateforme Facebook, vous d'abord, on reçoit parfois des messages, dont celui de Marguerite, qui nous raconte ce qu'elle a vécu.
J'ai 60 ans et j'ai l'impression d'avoir été en dépression depuis toute ma vie. Enfant unique, on doit correspondre à ce que notre famille attend de nous. On doit toujours en faire plus car ce n'est jamais assez bien. Après un parcours familial, personnel et professionnel très compliqué, des problèmes de santé sont arrivés et se sont aggravés jusqu'à s'inscrire à Exit. Après des années de thérapies multiples et variées pour trouver le véritable problème, avoir enfin un diagnostic, car le diagnostic de dépression ne me convainquait pas, après des dizaines de médicaments essayés qui m'ont apporté plus d'effets secondaires que de bénéfices, j'ai fini par faire des tests et bilans psy qui ont montré une personnalité au potentiel intellectuel et hypersensible. Quand on est perfectionniste, on trouve qu'on ne fait jamais assez bien, qu'on n'en sait jamais assez sur tous les sujets. Comme on n'est pas reconnu à sa juste valeur au travail, car le but est la productivité et non la qualité, on s'épuise et on craque. J'étais infirme hier, en un mot ou en deux mots. Est-ce une maladie ou le monde du travail est-il malade ?
Tellement de choses dans ce témoignage, hein, Patrick.
Ouais, c'est souvent le cours d'une vie de beaucoup de monde. Les gens vivent ça, ils vivent. Après, c'est peut-être différencier le burn-out, quelque chose de peut-être un peu plus spécifique que la dépression. Mais je pense que vous le citiez dans votre journal tout à l'heure, la psychothérapie aide, c'est rentable. Faites-le, je pense que c'est important de consulter.
Vous l'avez fait ?
Oui, je le fais. Et je pense que c'est fort, c'est de se remettre en question, la remise en question perpétuelle, quels que soient les outils que vous utilisiez pour la remise en question. Parce que le pire, c'est de rester avec ces certitudes, ces choses qui ont pu nous façonner, nous construire dans notre jeunesse ou notre vie entière. Il ne faut pas accepter le statu quo. La remise en question, elle est importante.
La remise en question, c'était le déclic pour partir en vélo ?
Oui, bah, j'avais fait le tour de ce que j'avais envie de faire dans cette entreprise. Et puis ce voyage en vélo, c'est un rêve que je nourrissais depuis plus de 20 ans. Donc j'avais besoin de le faire et j'ai pris cette liberté, on me l'a donné aussi, de vivre ce rêve. Et puis je trouve qu'il tombait à point pour déjà se reposer mentalement et puis c'est s'offrir du temps pour soi-même. Le vélo, la marche ou simplement prendre le temps dans nos vies, on n'a plus le temps de rien, donc c'était cette volonté là mais non, c'était mon rêve à moi depuis longtemps, donc je me suis dit c'est le moment de le faire.
Prendre le temps sur 5200 km, on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a eu plein de moments magnifiques, mais il y a eu aussi des moments où vous vous posiez la question, mais qu'est-ce que je fais là? Et nous on sait pourquoi on est là, parce qu'on parle du burn-out et on en parle avec la rue également.
Il y a aussi une part personnelle où on oublie peut-être de garder des moments privilégiés pour soi. Ça a des conséquences très néfastes. C'est des situations qui peuvent être résolues à partir du moment où on en prend conscience déjà et puis qu'on essaie de trouver des solutions adaptées.
Je pense pas que c'est la faute que des patrons par exemple et tout, mais je pense que L'environnement du travail n'aide pas, suivant les entreprises, au bien-être mental des gens.
La première faute, c'est la nôtre, de savoir dire non et stop, tout simplement. Avec les années, on arrive, on ose, le cercle se restreint, mais on s'en fout.
Et il y a celles et ceux qui ont été touchés par un ou même plusieurs burn-out, comme c'est le cas de Stéphane.
Moi, je crois que c'est dû au stress. J'étais dans des restaurants et en même temps, il y a eu les attentats du 11 septembre. Donc, les deux combinés, ça m'a fait faire deux burn-out et une dépression. C'est pas facile de s'en sortir, mais voilà, je suis encore à l'AI. Je suis suivi médicalement. J'ai déjà progressé en bien. J'ai pas mal de monde qui m'entoure pour parler en soi régulièrement et ça m'aide beaucoup.
Il y a deux choses, il y a en parler et puis il y a les circonstances. Jusque-là, on a parlé des patrons, on a parlé effectivement de la société, on a parlé de soi-même, on a parlé aussi de personnes ou tout le monde. Et là, tout à coup, il y a cet élément de l'actualité, du monde qui nous entoure. Ça, c'est aussi quelque chose de pas évident à gérer.
Bon, c'est évident qu'on vit une société qui est anxiogène. Hein. Je pense que si on se laisse imprégner par l'entourage, de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe autour de nous et autres, on peut vite être pas bien. Donc je pense que c'est aussi sain que de se protéger.
Et en parler. Il en parle, Stéphane, mais ça l'a sauvé, apparemment.
Non, ah ben oui, mais il n'y a que ça pour se sauver. C'est d'en parler. C'est d'en parler et il parle d'un point qui est extrêmement important, c'est l'entourage. D'être bien entouré. C'est important de se laisser entourer des gens. Je pense que tout le monde a des gens autour de soi qui nous aiment. Faites-leur confiance.
La faute à qui pour le burn-out? 079 844 0077. Vous d'abord.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Et à cette heure-ci, burn-out, à qui la faute? C'est la question de vous d'abord jusqu'à 13h avec Patrick Sumy, auteur du livre « Sur le fil, Lutry, Cap Nord à vélo » paru aux éditions Sledkin.
Et avec le témoignage partagé de Elisabeth qui donne aussi son avis sur cette question « À qui la faute ?»
Je suis une personne qui est très axée sur les détails quand je travaille. Un peu côté perfectionniste, si tu veux. Ça, c'est déjà une chose qui te prédispose à un burn-out. Tu as aussi la responsabilité de prendre soin de toi. Donc, respecter tes limites. Mais le problème, c'est que quand tu es dans la passion, comme moi je l'étais, évidemment, tu ne le sens pas venir. Donc, ça, c'est ta responsabilité. Et l'autre responsabilité de l'employeur, il m'a laissé travailler dans un bureau où on démolissait 3 étages en dessus. Donc là, je trouve la faute, elle est principalement chez l'employeur quand même.
La faute à qui alors? Allons-y Patrick, donnez votre avis, votre sentiment.
Ouais, c'est vraiment une question intéressante qu'on m'a... Pour l'anecdote que j'ai présentée, j'ai aussi fait un film là-dessus. Et puis quand, à la fin du film, je remercie à Nestlé parce que j'ai fait 23 ans, etc. Puis les gens levaient la main et me disaient « Mais je ne comprends pas, monsieur, vous remerciez Nestlé. » Et puis je pense que c'est important de... Déjà, ça ne sert à rien de savoir à qui c'est la faute parce que de mettre les choses en opposition, ça n'amène à rien. Ça veut dire de dire que c'est la faute de l'employé ou de l'employeur. Ce qui est important plutôt, c'est d'essayer de trouver des solutions ensemble. Ça veut dire s'asseoir l'un à côté de l'autre, de trouver des solutions. Et cette opposition-là, oui, moi je l'ai eue, parce que, encore une fois, tant que je n'avais pas levé la main, on était en opposition. Parce qu'il y avait quelqu'un en face de moi qui ne savait pas ce que je vivais. Dès lors que j'ai levé la main, moi j'ai rencontré des RH, j'ai rencontré un chef, qui sont dit, il n'y a personne, moi je ne crois pas que l'entreprise souhaite mettre des gens en burn-out, ça n'existe pas. Il peut y avoir bien sûr des rencontres malveillantes dans l'univers professionnel. Ça existe. Moi, je pense que c'est très multifactoriel. Et je pense que l'ennemi public, c'est l'égocentrisme. C'est cette volonté de vouloir continuer, de ne jamais rien lâcher et de se dire, moi, je vais y arriver. Et j'ai vécu ça parce que moi, pendant longtemps, j'ai aussi vu des gens partir en burn-out. Et moi, je me suis dit, moi, jamais. Moi, jamais.
Oui, mais l'égocentrisme appartient peut-être, l'ego appartient surtout au leader, peut-être pas forcément au suiveur, on va dire, dans le monde de l'entreprise.
Moi, je pense que l'égocentrisme, il est chez tout le monde. L'égocentrisme, c'est déjà ce souvenir du passé pour après, voir l'avenir. Donc souvent, les gens sont dans le mental et analysent ce qui s'est passé et se projettent. Si on fait table rase de l'égocentrisme, c'est le moment présent. Et ça, on a beaucoup de difficultés dans notre... société.
Passionnant. Je vous écoute et puis je vous propose d'écouter Marouchka qui donne son sentiment aussi.
Ça dépend de situation. Franchement, je dirais que c'est vraiment très individuel parce que ça dépend du contexte dans lequel un burn-out arrive. Quand c'est lié à des pressions au niveau du travail, du lieu de travail, oui, ça peut être lié à des personnes. La faute n'est pas sur une seule personne. C'est aussi nos défenses et notre façon de gérer aussi les situations. Voilà, le résultat. Malheureusement, je pense qu'on peut pas vraiment s'y préparer parce qu'il y a des situations, comme dans mon cas, où j'avais l'impression de gérer beaucoup. Que ça se passait bien et tout d'un coup ça tombe et très franchement c'est vraiment un coup de massue. Mais quand le corps il lâche comme ça, moi j'ai encore pas réussi à trouver d'explication comment j'aurais pu m'y préparer mieux.
Gabi, elle aussi donne son sentiment. On reviendra sur cette notion de se préparer au burn-out parce que ça ressortait très fort dans la rue, les gens qui se posaient des questions entre eux. Hein, Gabi.
Alors pour ma part, c'est l'employeur. Et à la longue, surcharge de travail, on doit être proactif, on ne peut pas être proactif avec un manque de personnel et puis des heures supplémentaires. Et c'est trop, beaucoup trop, et on n'ose pas dire non. Peur du licenciement, évidemment, où on nous fait bien comprendre que oui, mais c'est écrit sur le contrat, qu'on risque de vous appeler. Alors voilà, au début, on est tout content, on a un job, youpi, j'ai été engagé. Et c'est là que ça commence. Le cercle vicieux, en fait, la surcharge.
Et puis ce message qu'on vient de recevoir à l'instant, Valérie, un message sur notre répondeur au 079 844 0077.
Moi j'étais en burn-out en 2014 et c'est vrai, je pense que c'est le boulot qui a donné le reste, mais j'étais déjà pas bien avant. Je pensais un tout, c'est la vie privée, le travail, les soucis et tu fais que de courir et moi je ne voulais pas écouter. Alors des fois, il faut s'écouter soi-même, il faut écouter les amis, parce que des fois, soi-même, on ne se rend pas compte.
Multifactoriel, c'est ce que vous nous avez dit, Patrick, et on va y revenir dans quelques instants, évidemment, parce que ça ressort aussi beaucoup des messages qu'on vient d'entendre et d'autres que nous allons écouter. 079 844 0077.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Ogier.
Patrick Sumier, notre invité dans Vous d'abord pour ce burn-out. À qui la faute? C'est la question du jour. La faute à qui, justement, nous écrit Philippe. Est-ce la bonne question? Si c'est ma faute, je me culpabilise. Si c'est la faute de l'autre, je me dédouane et me déresponsabilise dans cet ordre-là. Pas de faute donc, selon Philippe, mais des expériences de vie dont nous devons tirer des leçons de vie.
Très intéressant ce message et ça confirme pas mal de messages qu'on a reçus dans les témoignages, mais aussi il y a des gens qui donnent leur avis, comme Chao par exemple, dans Vous d'abord.
Moi je pense que c'est aux employeurs, vu qu'en fait on a beaucoup de travail, des gens qui partent ne sont pas remplacés et ça nous fait une surcharge de travail et on n'est pas payé plus. Donc je pense que c'est beaucoup ça, je dirais à 80%. Les valeurs aussi sûrement qui ne correspondent plus à notre poste de travail.
Voilà, les employeurs, c'est quand même ce qui arrive nettement en tête. Si on garde la question, on déplaise à notre ami Philippe qu'on salue, mais la question, la faute à qui? Et justement, c'est la question posée dans la rue, la faute à qui?
Enfin, de temps en temps, quand on est épuisé, on se dit, j'espère ne pas basculer du côté du burn-out. Mais après, c'est d'être positif et de se dire, ça va aller.
On arrive toujours à s'en sortir ou à trouver une solution ou quoi que ce soit.
Le burn-out, pour moi, comme c'est lié à une entreprise, au travail, au monde du travail, ça reste la faute de l'employeur ou en tout cas de la société, mais société au sens d'entreprise. Je ne sais pas s'il y en a de plus en plus ou si on en parle de plus en plus.
Alors, la faute du burn-out, à mon avis, c'est une croisée de chemin qui a vraiment saturé.
Patrick Sumi, auteur de « Sur le fil » paru aux éditions Slatkin, 5200 km entre Lutry, Cap Nord, entre Lutry et le Cap Nord, parce que Lutry, ce n'est pas encore le Cap Nord, hein, c'est plutôt l'Est, lausannois. Mais vous avez vite évacué cette question, la faute à qui? Mais est-ce que pendant le voyage en vélo, vous vous êtes posé la question « Qu'est-ce que je fais ici ?»
Ah bien sûr, on a le temps. Hein. On a le temps de se poser des questions, on a le temps de refaire le cours de sa vie. On en parlait tout à l'heure, c'est... Je pense que c'est important de prendre le temps, de faire le bilan des choses qui vont bien, qui vont pas bien. On a une, on a un rythme de vie, notre hyperactivité quotidienne dans les métiers ou dans la société qui nous est offerte, fait que dès qu'on a un problème, on a tendance à le mettre sous le tapis et se dire bon, alors, je continue, on peut avoir des difficultés professionnelles, financières, amicales et autres. On a tendance à vite mettre ça de côté et puis se dire bon, il faut que j'avance. Et avancer, ce n'est pas toujours la bonne solution. Je pense que c'est un moment, il faut prendre le temps de s'asseoir. Moi, j'ai choisi le vélo, mais le prendre le temps avec soi-même pour faire le bilan. Et puis, il y a des choses qui reviennent. Moi, j'ai digéré des choses qui se sont passées il y a une dizaine d'années. Parce qu'encore une fois, moi, j'étais dans une vitesse de vie où je n'ai jamais eu le temps de digérer les choses. Je pense que c'est ça qu'il faut, prendre le temps.
Alors la question, on la posera peut-être dans une autre émission, mais est-ce que le monde de l'entreprise peut laisser le temps de digérer les choses? Ça, c'est encore une autre histoire. On va écouter le message que nous venons de recevoir sur notre répondeur 079 844 0077.
Et je pense que si la réglementation voulait qu'un employé qui subit un burn-out ou une atteinte grave à sa santé, que la direction on soit carrément impliqué et condamné. Parce que pour moi, un employeur doit également surveiller le bien, la santé et le bon fonctionnement de son employé, pas seulement du rendement pour l'entreprise.
L'auteur de ce message que nous venons de recevoir travaillait plutôt sur les chantiers, effectivement. Alors, il y a quand même de la pression. Hein. Vous l'avez vécu d'un côté, mais il y a quand même de la pression.
La pression, elle est là. Quelle qu'elle soit, qu'on soit sur un chantier ou chez Nestlé, il y a toujours une pression et je pense que l'univers du travail, il est là. Je pense qu'on a le choix. Je pense qu'à un moment donné, on doit se regarder en face et se dire, moi, qu'est-ce que je veux? Et c'est toujours plus facile hein, de mettre la faute sur les autres, toujours. Et je pense que la vraie question, c'est la remise en question. Se remettre en question, c'est accepter de changer. Et puis changer, ben ça, c'est le remède au burn-out. C'est d'accepter qu'il y a un avant, il y a un après, avec des remises en question sur les causes du burn-out ou sur nous-mêmes, parce que notre manière de fonctionner peut nous amener au burn-out, malgré qu'on se sente très fort.
Merci beaucoup d'être venu. Patrick Sumi, sur le fil, si vous regardez Carac 3, voici la couverture du livre avec une magnifique tasse de café que vous avez achetée au Cap Nord et remplie avec un café qui ne devait pas être très digestif, mais digestible, mais ce n'est pas grave.
Il avait le goût de la satisfaction.
Ouais, c'est ça, absolument. Paru aux éditions Slatkin. Donnez encore votre avis, si vous le voulez, quelques instants, 079 844 0077.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Vous d'abord. Jusqu'à 13h, dernière ligne droite pour cette question burn-out, à qui la faute?
Eh oui, cette question à laquelle vous avez répondu quand même majoritairement, quand on se la pose comme ça, que c'est les entreprises qui portent la responsabilité. Majoritairement, il y a même un message qui est arrivé en disant il y a beaucoup d'entreprises, de patrons qui font rien par rapport à ça, et après il y a des suicides et tout. Donc c'est un peu votre sentiment. Merci pour les messages que vous avez envoyés. Un dernier aperçu de ce qui a été dit pour répondre à cette question dans la rue, pour conclure.
Je pense à l'époque, à ce qu'on vit actuellement. J'imagine.
Les burn-out, c'est dû à l'organisation personnelle hein, de comment on gère nos affaires. Hein. Mais comme on est très individualiste, hein, je pense que c'est très compliqué de demander de l'aide à gauche, à droite si on sent que ça ne va pas bien. Et puis on voit aussi après dans les réseaux sociaux, quand ça part en vrille, bah, ça embarque les gens dans des situations un peu détestables. On est à l'abri de rien. non, ça peut arriver à n'importe qui. Ouais. Ça finit aussi assez régulièrement dans des états dépressifs. Hein.
Merci beaucoup Valérie pour cette émission. On se retrouve demain et demain évidemment c'est la journée sur LFM Eurovision. On a gagné l'Eurovision, c'était il y a quelques années. On se reposera la question. Je ne vais pas vous la refaire celle-là. Vous la préparez
demain,
pour demain.
Je la prépare pour demain. Et on 18 sait... fois de Jean-Marc Richard disant on a gagné l'Eurovision grâce
18,
à lui.
37. Il y en a eu 37.
C'est
ouais.
Pas vrai.
Je demandais à mon fils qui était fâché. Il m'a dit 37 fois, on a gagné l'Eurovision. On a compris quand même. Bon voilà. Tout ça pour vous dire qu'on va vous proposer dès maintenant de nous envoyer un message vocal ou écrit sur le 079 844 0077 pour nous parler des flops ou des tops de l'Eurovision. Top ou flop, donnez-nous votre avis. On les attend avec impatience. À demain.
À demain.